À voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, dans cette rubrique, l'auteur caché. Vous connaissez maintenant la règle du jeu, je vous donne 10 indices. Le comédien Fernand Guillot vous lit 10 lignes d'extrait de l'œuvre de notre auteur, mais 10 lignes ou un tout petit peu plus. Et en moins de 10 minutes, vous devez découvrir de quel auteur il s'agit. Rassurez-vous, c'est assez facile, c'est un classique de la littérature. Il fut académicien, alors vous êtes prêts ? À vous de jouer. Premier indice, notre auteur, né dans les Vosges, a vécu lorsqu'il était enfant en Lorraine occupée par les Allemands après la guerre de 1870. Il est donc lorrain par sa mère et très attaché à ses racines. Il écrira d'ailleurs, mais plus tard, en 1897, une trilogie dont le premier tome s'intitulera « Les Déracinés ». Deuxième indice, cette terre de Lorraine, il va s'en faire le chantre, devenir la voix de la Lorraine, ce bastion du patriotisme prônant la fidélité au sol natal, le racinement, le mot est de lui, contre le déracinement. Il devient un écrivain engagé et en 1899, il prononce une conférence restée fameuse, « La terre et les morts ». Troisième indice, dans son œuvre la plus célèbre, il fait revivre sur la colline de Sillon, Vaudémont, la dramatique histoire des frères Bayard, trois prêtres qui se donnent pour tâche de réveiller l'âme de la Lorraine. Quatrième indice, notre auteur est sensible au lieu où souffle l'esprit, notamment cette colline de Sillon, au lieu des légendes celtiques. Écoutez-le.
Il est des lieux qui tirent l'âme de sa léthargie. Des lieux enveloppés, baignés de mystères, élus de toute éternité pour être le siège de l'émotion religieuse. L'étroite prairie de Lourdes, entre un rocher et son gave rapide. La plage mélancolique d'où les Saintes Maries nous orientent vers la Sainte Baume. L'abrupt rocher de la Sainte Victoire, tout baigné d'horreurs dantesques, quand on l'aborde par le vallon aux terres sanglantes, l'héroïque Vézelay en Bourgogne, le puits de Dôme, les grottes des Aisies où l'on révère les premières traces de l'humanité, la lande de Carnac parmi les bruyères et les ajoncs dresse ses pierres inexpliquées, la forêt de Brocéliande, pleine de rumeurs et de feux follets, où Merlin, par les jours d'orage, gémit encore dans sa fontaine.
Cinquième indice, on le comprend pour notre auteur, pèlerin passionné, ces lieux portent vers la poésie et la prière. Et d'ailleurs, il s'en explique.
Tout l'être s'émeut depuis ses racines les plus profondes jusqu'à ses sommets les plus hauts. C'est le sentiment religieux qui nous envahit. Il ébranle toutes nos forces. Mais craignons qu'une discipline lui manque, car la superstition, la mystagogie, la sorcellerie apparaissent aussitôt et des places désignées pour être des lieux de perfectionnement par la prière deviennent des lieux de sabbat. D'où vient la puissance de ces lieux? La doivent-ils au souvenir de quelques grands faits historiques, à la beauté d'un site exceptionnel, à l'émotion des foules qui, du fond des âges, y vinrent s'émouvoir? Leur vertu est plus mystérieuse. Elle précéda leur gloire et saurait y survivre. Que les chaînes fatidiques soient coupées, la fontaine remplie de sable et les sentiers recouverts, ces solitudes ne sont pas déchues de pouvoir. La vapeur de leurs oracles s'exhale même s'il n'est plus de prophétesse pour la respirer. Et n'en doutons pas, il est de par le monde infiniment de ces points spirituels qui ne sont pas encore révélés, pareils à ces âmes voilées dont nul n'a reconnu la grandeur. Combien de fois, au hasard d'une heureuse et profonde journée, n'avons-nous pas rencontré la lisière d'un bois, un sommet, une source, une simple prairie, qui nous commandait de faire taire nos pensées et d'écouter plus profond que notre cœur. Silence. les dieux sont ici.
Sixième indice, on admire au passage le style magnifique de notre auteur, simple et incantatoire, avec lequel il célèbre tout à la fois les saintes et les fées. Il n'a cessé de défendre l'Église catholique, parce que depuis des siècles, elle accueille et maintient tous les aspects de la spiritualité. Il voit dans cette religion la continuité de la spiritualité antique, et cette subtile alliance a forgé, selon lui, la civilisation française. Écoutez cet extrait tiré d'une autre œuvre intitulée « Le mystère en pleine lumière ».
Voici plusieurs mois qu'en feuilletant une brochure chez le libraire, j'ai appris par hasard qu'il existe dans la cathédrale d'Auxerre une image de la Sibylle. Il paraît même que jadis on en voyait deux autres sous le porche. Un vrai nid de Sibylle, cette cathédrale. Cela m'a tout de suite enchanté d'une manière qu'il m'est assez difficile de rendre claire, fût-ce à moi-même. Ce que j'éprouve, c'est un sentiment profond d'approbation. J'approuve que dans un lieu saint, quelque chose de charmant et de mystérieux que le malheur avait découronné ait été recueilli avec honneur. La dernière des Sibylles errait silencieusement sans abri. Ses temples d'Europe et d'Asie s'étaient écroulés et les dieux païens couchés dans le sable ne pouvaient plus la protéger. Le Christ les supplée et reçoit leur fille chérie dans l'ombre de son autel. Quelle émouvante courtoisie de la divinité!
Septième indice, notre auteur affectionne les trilogies. Il n'a que 26 ans lorsqu'il publie sa première trilogie sous le titre collectif de Culte du Moi, qui comprend trois volumes, Sous l'œil des barbares en 1888, Un homme libre l'année suivante et Le jardin de Bérénice en 1891. Huitième indice, tout jeune, il entame une carrière politique qui s'avérera brillante, bien que plus d'une fois orageuse. L'année où paraît son livre Un homme libre, en 1889 donc, il devient député de Nancy, il a tout juste 27 ans, et lors de l'affaire Dreyfus, il se place en anti-Dreyfusard. Neuvième indice, en 1897, nouvelle trilogie, Les Déracinés, suivie de L'appel aux soldats en 1900 et de Leur figure en 1902, trilogie dans laquelle notre auteur affirme ses principes et ses théories de fidélité au sol natal. Cette fermeté lui valut cependant autant d'admirateurs que de contradicteurs. Dixième et dernier indice, en 1906, deux carrières s'ouvrent à la fois devant lui, l'Académie française et la Chambre des députés. À la tribune, celle de la Chambre bien sûr, il multiplie les interventions vibrantes. Il défend les édifices religieux mis en danger par la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905, en écrivant « La grande pitié des Églises de France ». À l'Académie, il prit la succession de José Maria de Heredia, et il siégera 17 ans parmi les immortels. Il relisait des pages de son mystère en pleine lumière quand la mort vint néanmoins le prendre le 4 décembre 1923. Vous l'avez reconnu? Si oui, bravo, ce n'est pas si facile. Sinon, vous pouvez trouver la réponse sur notre site ou l'écouter dès maintenant. Il s'agissait de Maurice Barrès. Merci Fernand et à bientôt pour une autre émission.
Bien entendu.